Radio Open FM. L'Europe et nous, infos, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin.
Et Jean-Pierre Foultier, évidemment, qui est avec nous. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Quatrième chronique de cette série consacrée au patrimoine européen. Alors, nous avons visité ensemble ce patrimoine exceptionnel des siècles passés. Et je crois que vous souhaitez aujourd'hui nous parler d'un patrimoine qui nous est peut-être un tout petit peu plus familier.
Plus familier, je ne sais pas, tant l'idée de patrimoine est liée à ses vestiges et monuments, cathédrales, châteaux, etc., reconnus et pour la plupart classés. Le patrimoine qui sera le sujet de ma chronique de ce jour fait partie de notre quotidien ou de celui des quelques générations qui nous ont précédés. Ce sont bien sûr ces architectures nouvelles, souvent des lieux culturels d'ailleurs, qui ont éclos ici ou là en Europe, même si, je l'ai dit la semaine dernière, leur caractère purement européen s'est peu à peu dilué dans l'actuelle mondialisation. Que l'on pense en France au musée Pompidou, au Mucem marseillais ou au très curieux musée des Confluences de Lyon. En Angleterre, au 30 St Mary Axe, cette tour d'un quartier d'affaires que les Londoniens appellent le Cornichon. En Espagne, au musée Guggenheim de Bilbao, je ne sais pas, voulez-vous que je vous en cite encore quelques autres dont nos auditeurs pourront trouver les photos souvent étonnantes sur Internet ?
J'entends mon oreillette, ça hurle, oui, on en veut d'autres ! Donc bon, allons-y, direction Amsterdam par exemple ?
Amsterdam, le musée scientifique Nemo, un magnifique ensemble architectural vert de gris signé Renzo Piano. Non loin de là, en Belgique, à Anvers, le musée-galerie Maas, dessiné par les architectes néerlandais Neutelings et Rijik, fait de blocs de grès rouge et de parois de verre ondulé qui donne aux visiteurs l'impression de voir à travers des vagues. Un peu plus loin, au nord, en Finlande, c'est la bibliothèque Audi d'Helsinki, beaucoup plus futuriste que la BFM de Limoges. À Stuttgart, c'est la Neostaatsgalerie qu'il faut visiter, assemblage de pierres et de poutres en acier. Plus au sud, cette fois à Barcelone, en dehors de la fameuse Sagrada Familia de Gaudi, le pavello, pavillon, de Lili Reich et Miss van der Rohe, dont j'ai dit la semaine dernière le nom a été donné à un prix européen d'architecture, avec son toit plat qui semble flotter et ses murs en matériaux nobles comme le marbre, l'onyx rouge et le travertin. Voilà, Sébastien, on arrête là le voyage, mais...
Pas mal déjà.
Bien d'autres itinéraires sont possibles, je vous en parlerai la semaine prochaine.
Ah, si on en garde un peu sous le coup, très bien. Alors, question quand même, est-ce que l'architecture contemporaine, on a parlé de la plus ancienne, mais la contemporaine, est-ce qu'elle est née en Europe ?
C'est en tout cas en Europe qu'a été véritablement pensée une nouvelle façon d'habiter. Cela a été l'idée maîtresse d'une école allemande du début du XXe siècle qui aura une influence considérable sur l'architecture européenne, mais aussi les arts appliqués et le design. Il s'agit du Bauhaus, un mouvement artistique dont le projet était de refonder totalement les conceptions de l'habitat en liaison avec une vision utopique de la société après le cauchemar de la Première Guerre mondiale. Ce ne sont pas les formes prestigieuses qui sont recherchées, mais l'adaptation de l'esthétique architecturale aux fonctions sociales les plus quotidiennes. Une idée qui sera aussi celle de l'architecte suisse Le Corbusier, dont je parlais la semaine dernière, et dont les immeubles d'habitation, comme la célèbre Maison du Fada à Marseille, font à l'évidence partie de ce patrimoine d'aujourd'hui. L'aventure du Bauhaus a été précocement et tragiquement interrompue par le régime nazi, mais elle a diffusé partout en Europe et dans le monde, notamment en Israël et aux États-Unis. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si récemment la Commission européenne a choisi le nom de New Bauhaus pour un projet architectural, mais aussi économique et environnemental que la présidente Ursula von der Leyen présentait ainsi, je la cite, « Le nouveau Bauhaus européen peut permettre la création d'un espace où réfléchir ensemble à la manière dont un nouveau style de vie peut être mis en place de manière créative dans une Europe plus saine, plus digitale et plus durable. »
Un patrimoine qui présente aussi d'autres formes ?
Oui. Au premier rang desquels ce que nous appelons le patrimoine industriel, mais qui est aussi et surtout un patrimoine social. Sur 46 sites industriels classés au patrimoine mondial en 2012, 36 sont européens. Ce sont bien sûr d'abord des vestiges de la révolution industrielle, et c'est tout naturellement que le Royaume-Uni, dont le passé industriel est particulièrement riche, a entrepris dès les années 1960 de sauvegarder des sites emblématiques en les convertissant en lieux culturels, comme c'est le cas de la petite ville industrielle de Saltaire, témoin du paternalisme social du 19e siècle, ou du musée du fer d'Iron Bridge, ou encore à Londres de la centrale électrique de Bankside, devenue le musée de la Tate moderne. En France, cela a été le cas un peu plus tardivement. L'ancienne gare d'Orsay a accueilli le musée que l'on connaît, et la friche industrielle de l'ancienne manufacture de tabac de la Belle de Mai à Marseille est aujourd'hui un espace culturel branché. Chez nos voisins allemands, la région des Hauts-Fourneaux de la Roure accueille des œuvres d'art sur les terrils, des pistes cyclables, des parcs à thème, etc. Ainsi, c'est un véritable tourisme industriel qui a vu le jour et qui permet à des régions sinistrées de retrouver un peu de vitalité et de fierté, comme cela a été le cas du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais après son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012. C'est dans cet esprit qu'a été conçue dans les années 2000 une route européenne du patrimoine industriel qui compte plus de 1300 sites répartis dans 47 pays d'Europe. Un patrimoine industriel qui est un des éléments de ce que l'on désigne aussi sous les termes de patrimoine vivant.
On va terminer d'ailleurs avec cette notion du coup de patrimoine vivant, qu'est-ce qu'elle recouvre ?
On considère comme patrimoine vivant des pratiques, des connaissances et des compétences qui ont été transmises d'une génération à l'autre jusqu'à nos jours. Ce sont de nombreux savoir-faire, des métiers et professions qui permettent aussi de perpétuer des connaissances nécessaires à la préservation du patrimoine et à son entretien. Car tout ce patrimoine, prestigieux ou plus quotidien, a besoin d'être entretenu et sauvegardé. Les vestiges tragiques d'Oradour-sur-Glane en sont un exemple. Et c'est de cette politique européenne du patrimoine que je compte, Sébastien, vous parler dans ma prochaine chronique.
Donc je ne demande pas le menu de la semaine prochaine. Je l'ai, je le connais, vous aussi. Alors revenez avec nous la semaine prochaine pour conclure cette série sur le patrimoine européen. Et d'ici là, Jean-Pierre, une bonne semaine.
Bonne semaine à tous.
C'était l'Europe et nous, info, conseil et actu. Pour construire ensemble la communauté européenne de demain. Avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges-Dumas à Limoges. 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.